Bonjour à toutes et à tous. On ne sacrifie pas au quart d'heure poids de vin ce matin parce que, vu la thématique de la journée et les débats qui promettent d'être intéressants, je vous propose de commencer de suite, de vous dire un petit mot et de vous saluer, et puis de laisser la parole escalité à l'université, puisque Yves-Jean, le président de l'université de Poitiers, est au four et au moulin, et là, en l'occurrence, il est dans son bureau en train de régler, je pense, des affaires courantes. Et puis aussi les excuses de Loïc Vaillant, qui nous a contactés hier soir pour dire qu'il ne pourrait être parmi nous, qui vous salue. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Didier Moreau, je suis directeur de l'Espacement d'Es France. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue et une excellente année 2018. On commence très fort la programmation de cet établissement, puisque la semaine dernière, dans cette salle, nous avions les masters et du public, je vais vous en dire un mot, sur une thématique sur une journée, c'était soigner au Moyen-Âge. Alors, si je vous dis ça, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de numérique, on va parler de recherche, on va parler de SHS, sciences de l'homme et de la société, sciences humaines. Si je vous dis ça, simplement, c'est pour vous dire que l'Espacement d'Es France, qui est un centre de culture scientifique créé il y a un peu plus d'une trentaine d'années par des universitaires, des enseignants-chercheurs des sciences dites dures à l'époque, l'Espacement d'Es France a très rapidement fait sa mue pour mobiliser la recherche en sciences humaines, pour pouvoir éclairer nos concitoyens sur les enjeux de la place des sciences dans leur plus large acception dans nos sociétés. L'Espacement d'Es France, c'est maintenant 180 000 personnes par an. Quand je suis arrivé ici, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, c'était 14 000 personnes par an. À titre indicatif, vous allez faire partie des 60 ou 65 000 personnes qui vont venir dans ce bâtiment cette année. Et sur le territoire de l'ex-région Poitou-Charentes, nous touchons quasiment 100 000 personnes dans un peu plus de 200 communes différentes. Si je vous dis ça, c'est simplement pour vous expliquer que la recherche, les rencontres autour de la recherche et des thèmes scientifiques et techniques, des thèmes du numérique en font partie, j'en dirai un mot tout à l'heure à travers deux anecdotes, ne doivent pas rester des faits urbains, des faits de villes universitaires. Et les acteurs de la diffusion, tels que l'Espacement d'Es France, doivent non seulement s'employer à largement diffuser, mais également encore plus expliquer auprès de nos concitoyens qui, en milieu rural, dans des villes de petite taille, se sentent bien souvent les oubliés de ces discussions. Nous sommes en train de travailler à un projet à la maison Maria Cazares, pas très loin de Confolens. Un beau projet scientifique, artistique, technologique, qui ne peut pas avancer parce que le haut débit, je ne parle même pas de très haut débit, n'est pas là, alors que c'est le cœur d'une problématique. Donc on voit que le décrochage, il est là, il est tangible. Et ce dont vous allez parler aujourd'hui autour du numérique, c'est une avancée majeure de ces deux dernières décennies, à travers le numérique et ses déclinaisons. Et que pour faire beaucoup d'opérations en infra-région, Poitou-Charentes, alors les Bordelais disent la paléo-région, on se rend compte à quel point ce mot décrochage, c'est pas une figure de style, il est potentiellement là. Alors une maison comme la nôtre, bien sûr, reçoit les scolaires, les jeunes et un petit peu moins jeunes qui viennent se frotter aux sciences, hein, le milieu extrême, la nutrition, bientôt l'origine de l'homme et la question du racisme. Mais également, cette maison s'emploie à créer des événements, des temps de rencontre, tels que celui d'aujourd'hui, pour pouvoir éclairer un petit peu mieux le débat. L'expertise que nous avons suscitée depuis une quinzaine d'années sur les questions de médiation, de diffusion, sont sur la question du numérique essentiel. La technologie, c'est bien, mais c'est une question qui est une des facettes des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Dernier point par rapport à ça, je voudrais vous raconter deux anecdotes qui peuvent vous intéresser. J'ai eu un coup de fil la semaine dernière de la directrice de la communication de ce qui s'avère être, je ne le connais pas, l'un des plus grands centres commerciaux de France, qui est à Nantes. Ça va vous paraître bizarre. Et elle m'appelle parce que nous avons dans notre établissement en ce moment, je vous invite à y venir, une animation autour de l'exposition Milieu extrême qui reconstitue dans 25 mètres carrés le milieu hostile, s'il en est, de Mars. Cette reconstitution a été faite en partenariat avec un laboratoire d'ici, Xlim, mais également avec des graphistes et designers. Mais nous, on a fait quelque chose d'un peu particulier, c'est que cette reconstitution qui permet à travers des lunettes 3D d'être immergé dans le milieu hostile qu'est Mars, nous n'avons installé pour les 12 personnes qui participent à l'animation qu'une seule lunette. Pourquoi ? Parce que le constat, il est clair, l'outil numérique, ses supports, incite, entraîne, incline à l'individualisation des choses. Là, il n'y en a qu'un seul qui utilise la lunette et les 11 autres l'aident à accomplir les missions. La directrice de communication, qui a visiblement pas de problème de budget, me dit, moi, c'est pas le problème d'acheter 12 lunettes à 1000 euros la lunette et puis tout ce qui va autour. Moi, mon problème, c'est de créer une animation où on crée du collectif auprès des groupes. Ça en dit long sur la manière dont les choses sont en train d'évoluer et où l'interrogation sur le collectif versus l'individualisation, elle est vraiment très, très forte. Deuxième aspect, faire sourire, ici, dans cet établissement, il y a une animation qui s'appelle l'école de l'ADN. Hein, si vous vous êtes intéressé sur les questions de génétique et d'ADN, allez à l'école de l'ADN. C'est un magnifique laboratoire expérimental. Et en fait, depuis quelques mois, nos amis de l'école de l'ADN ont trouvé astucieux, ce qui est exact, de lancer un certain nombre d'animations permettant à tout un chacun, c'est-à-dire des collégiens et des lycéens, de travailler sur le thème avec ça, là. Ça, là. Ils en ont tous. Sauf que quand le groupe de 14, c'est 2 fois 14, arrive, qui a plus de batterie ? Qui a plus de mémoire ? Qui a, etc., etc. Et on se rend compte qu'en fait, il y a une forme de mythe qui s'est installée autour du déploiement du numérique individuel à travers un certain nombre d'outils et qu'on est rapidement en train de faire le tour du mythe, déjà, premier point. Et deuxième point, ça c'est pour l'éducation et le numérique, et je pense à mon ami Jean-François Cerisier ici, il y a plein de fausses bonnes idées auxquelles il va falloir tordre le cou. Alors je pense qu'aujourd'hui, cette salle a depuis plus de 20 ans était une salle où le débat a permis de tordre le cou à plein d'idées reçues et surtout de faire de l'innovation un véritable objet, c'est-à-dire permettre à nos concitoyens d'être en toute plénitude conscients de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont sur les innovations techniques qui bien sûr sont sur un espèce de tapis roulant en permanence, il y en a des nouvelles, mais également nous devons œuvrer pour que ce partage se fasse et que ces rencontres collectives soient présentes. Alors vous êtes des jeunes étudiants qui représentent l'élite d'une nation ou d'autres pays. Ça, c'est clair, je le dis et ça fait sourire, mais je pense que c'est vrai. Et je pense que dans votre parcours, à un moment ou à un autre, il faut se poser la question de ces contenus. Bien sûr, dans vos parcours professionnels, scientifiques, individuels, pour le futur, bien sûr, mais également de savoir ce que vous en faites dans une divulgation et un partage avec nos concitoyens. Donc, encore une fois, la maison est à votre service. Nombre de vos prédécesseurs sont venus ici à travers toute une série de stages et autres instances pour dispenser auprès de nos concitoyens un certain nombre d'éléments de ce qui fait votre parcours de scientifique, de chercheur. Et vous êtes invités, vous êtes les bienvenus pour que dans votre parcours au sein de l'Université de Poitiers, dont nous ne sommes peut-être pas encore une composante, mais au moins une facette qui me paraît indispensable, nous sommes à votre disposition pour que vous puissiez vous exprimer et créer le partage. Voilà, donc je vais en rester là pour le moment. Et puis je vais passer alors la parole à l'Université de Poitiers, en l'occurrence, Escalité. Tiens.
Merci. L'Université de Poitiers, c'est tous ceux qui sont là, donc je serais bien en peine de la représenter tout seul, mais je dirai un mot au nom de Yves Jean, qui a été empêché, de Loïc Vaillant également, mais aussi au nom de tous ceux qui sont ici pour remercier de cette forme nouvelle dans la collaboration de l'espace Pierre Mendès France avec l'université ne date pas d'aujourd'hui, loin s'en faut. Déjà, les doctorants pouvaient assister aux conférences et peuvent toujours assister aux conférences très nombreuses qui jalonnent l'année. Mais nous avons essayé de bâtir une formation spécifique. Et merci à Thierry, ici présent, avec lequel nous avons réfléchi au programme, pour faire un temps fort pour les doctorants du secteur des sciences humaines et de la société. Alors, c'est d'autant plus important que il y a un aspect de valorisation, comme le disait Didier à l'instant, qui est essentiel pour nos disciplines. Je dis ceci parce qu'il y a les sciences, allez, soyons gentils, dites exactes, qui savent peut-être mieux défendre les découvertes, les avancées dans tel ou tel domaine, et les sciences humaines et de la société ont parfois le sentiment de se heurter à une incompréhension, voire à un sentiment d'inutilité en face. Oui, vous, j'ai déjà entendu dire, vous cherchez, mais il faudrait trouver quelque temps, il faudrait trouver un petit peu. Nous cherchons et nous trouvons, vous cherchez et vous trouvez, mais nous ne savons peut-être pas assez, en France particulièrement, mais aussi dans d'autres pays, le valoriser. Donc c'est une de mes priorités. Et c'est dans ce sens-là que j'ai pensé à cette journée et que, plutôt que de la faire à la MSHS, nous avons un très bel amphi, mais de la faire à l'espace Pierre Mendès France pour pouvoir l'ouvrir à un public élargi, un public intéressé, pour qu'il soit au courant de ce que font les doctorants dans les discussions, de ce que font les chercheurs dans ce domaine et comment on nourrit la société de toute cette pensée. C'est aussi sur la dimension de réflexivité. J'ai trop souvent entendu dire « Oui, mais l'interdisciplinarité, ça fait très chic, mais nous, on préfère se concentrer sur notre discipline, voire, pour les historiens, notre période ou notre fonds d'archives. » Non, dans la formation, il est vraiment important de croiser les regards, comme on dit, de multiplier les discussions. Et ceci, non seulement pour l'aspect professionnalisant de la formation, mais aussi pour l'aspect intellectuel. Et je ne veux plus entendre, pardon de la formule brutale, je ne veux plus entendre des doctorants ou des directeurs de doctorants qui me disent « Oui, mais ça, c'est un magma philosophico-poétique et ça ne leur sert à rien ». Eh bien, ça ne sert à rien au sens utilitariste du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas immédiat, mais il faut savoir s'approprier tous ces moments que l'on vous propose. C'est pour ça que l'interdisciplinarité, qui fait partie des axes de la formation, c'est quelque chose qui me semble vraiment crucial. Donc, valorisation grand public et puis aussi réflexivité sont les deux axes qui ont animé la construction de cette journée. J'ajouterais pour l'aspect valorisation qu'il y a un autre aspect sur lequel on travaille avec l'espace Pierre Mendès France pour la revue Actualité scientifique de Nouvelle-Aquitaine. J'ai travaillé avec Jean-Luc et avec Loïse qui est ici présente pour que les doctorants régulièrement présentent leurs recherches en cours. Et il y a une équipe qui y a déjà travaillé. Et là aussi, il s'agit non pas de faire comme on fait dans notre spécialité, d'avoir un langage hyper pointu, mais de rendre accessible un grand public, c'est-à-dire un public intéressé, un public avide de connaître, avec des mots plus simples, avec une conceptualisation qui se mette à la portée de tous et savoir le présenter, le faire connaître. Donc il y a déjà une équipe qui a travaillé dessus et voilà, les suivants seront les bienvenus lorsque on proposera les rencontres à venir. Voilà, c'est vraiment important parce qu'il y a eu un changement radical dans ce qu'était la thèse et qui est encore en train d'être en œuvre. Autrefois, mon directeur de thèse, je ne dirais pas combien de fois je l'ai vu, mais ça mécontenterait beaucoup ceux qui cochent sur les fiches de présence au sein de l'école doctorale. Non, Aujourd'hui, on a un vrai accompagnement. C'est un besoin, c'est une nécessité, parce que la recherche ne se fait pas seule. Elle se fait par le dialogue, par l'accompagnement. Et les fameux de comités de suivi des doctorants sont là aussi pour cette dimension. Donc vraiment, un grand merci à l'espace Pierre Mendès France, à Didier Moreau et ceux qui ont travaillé avec moi pour cette journée de cette nouvelle forme de collaboration. Et merci beaucoup aux intervenants qui ont accepté volontiers nos sollicitations et qui vont nous nourrir. Donc après le côté protocolaire d'introduction, nous allons plonger dans le cœur de nos discussions. Merci à tous et merci aussi aux doctorants. Il y a eu des volontaires désignés, pardon pour eux. Il y en a qui ont spontanément proposé leur service pour qu'ils présentent, pour qu'ils accompagnent les débats. Et il y aura un compte-rendu parce qu'il y aura le après. Donc la séance de toute la journée est filmée. Elle sera visible par le monde entier. Il y aura un compte-rendu écrit qui sera mis à la disposition de ceux qui vont suivre. Et nous réfléchissons déjà aux étapes suivantes sur cette thématique. N'hésitez pas non plus à faire part de vos besoins, de vos demandes. Quand je suis arrivé, donc maintenant un peu plus d'un an, à la tête de l'école doctorale, on m'a dit « Oui, on envoie en fin d'année chaque fois un questionnaire d'évaluation, mais il y en a moins de 10% qui répondent. » La formation à ce niveau-là, elle est faite pour vous, mais elle est faite aussi par vous. Si vous dites... comme je l'avais entendu dire avant, la formation, oui, c'est simplement des heures de présence à cocher. C'est un échec pour vous, c'est un échec pour nous. Donc, n'hésitez pas non plus à faire savoir et à faire des propositions, parce que c'est vraiment dans une attitude d'interactivité que nous devons travailler ensemble. Donc, merci beaucoup et puis bonne écoute et bonne discussion pour toute la journée. Et puis Guillaume Rossello qui doit le présenter.
Bonjour à tous. Donc, comme M. Gravy vient de l'évoquer, donc moi, Guillaume Rossello, doctorant en deuxième année sous la direction de fait de M. Jérôme Gravy. Donc, je vais vous présenter M. Milad Douahi, philologue et historien des religions. Historien des religions qui a un parcours, on peut dire, atypique, puisque celui-ci s'est converti aux humanités numériques. Voilà, une conversion qui n'a pas d'équivalent. Pour revenir rapidement sur le parcours de M. Douahi, celui-ci a été titulaire de la chaire de recherche sur les cultures numériques à l'Université de Laval au Québec, ainsi que co-titulaire de la chaire numérique au Collège des Bernardins à Paris. Il est actuellement titulaire de la chaire d'humanisme numérique à la Sorbonne Université et pilote actuellement le projet Humanum, qui pareil se situe à la Sorbonne, dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Il a écrit notamment certains ouvrages qui ont fait date sur la question des humanités numériques, en particulier, pour revenir sur la question de la conversion, La grande conversion numérique, publiée en 2008, ainsi que Pour un humanisme numérique et Qu'est-ce que le numérique, publié en l'année 2013. Donc, pour revenir sur quelques concepts émis par M. Douahi, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il en est. Donc vous êtes l'un des premiers à penser le numérique non pas comme une technique, mais bien comme étant une nouvelle culture. On entend par là le fait qu'une culture modifie notre regard de fait sur les choses, sur nous-mêmes et notre héritage. De fait, en cela, le numérique s'inscrit bien dans la notion de culture. De même, vous avez établi le concept d'humanisme numérique, dont vous parlerez certainement par la suite. Donc, je vous laisserai en dire quelques mots, si vous permettez. Et pour terminer, en troisième point, la question de la conversion numérique et non pas de révolution numérique, comme on a tendance à employer. Car, selon vous, il existe en effet un rapport de continuité et des similitudes entre le fait religieux et la question du numérique. Donc nous ici, doctorants du laboratoire, la LPH, la question des humanités numériques revêt pour nous tous, ou du moins pour certains d'entre nous, un certain intérêt. Pour ma part, par exemple, sur le laboratoire CRIAM, cet intérêt s'est illustré lors de la journée d'études des doctorants qui a eu lieu l'année dernière sur la question de la culture 2.0, donc qui a abordé la question forcément de l'impact des humanités numériques sur le métier de chercheur et différentes thématiques telles que les arts ou le religieux. Plusieurs d'entre nous utilisent également des logiciels ou des outils numériques du type Access ou Zotero ou encore Excel pour ceux qui savent peu manier Access, ce qui est mon cas. Ici, la question des humanités numériques nous interpelle directement sur l'impact de cette question sur le métier de chercheur et nous questionne également sur l'impact sur les productions et la diffusion du savoir. Donc, je pense que je vais vous laisser dès à présent la parole en vous remerciant d'avance et je vous souhaite une bonne écoute.
Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour la présentation, trop généreuse, malgré la conversion qui revient sans cesse. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je vais me permettre, dans les 40 minutes que j'ai, de vous présenter un petit peu, en suivant l'intitulé que j'avais donné à mon topo ce matin, entre philologie et épistémologie, parler d'humanité numérique en quelque sorte, mais peut-être plutôt parler aussi un petit peu de l'histoire de l'informatique, qui me semble tout à fait essentielle et pertinente aujourd'hui. Et en reprenant l'intitulé de la journée, les sciences humaines au défi du numérique, j'ai envie d'inverser le titre et dire le numérique au défi des sciences humaines, parce qu'il me semble qu'il est temps qu'on ne subisse plus le discours traditionnel, conventionnel, qu'on connaît tous par cœur, mais de revenir également aux questions, aux interrogations qui peut-être sont à la fois plus pertinentes pour répondre un petit peu à ce que vient d'être dit, la recherche qu'on fait, est-ce qu'elle est utile, à quoi elle peut mener, ainsi de suite. Pour ce faire, je vais vous proposer deux temps, j'espère que je ne serai pas trop hors sujet, pour situer un petit peu à la fois au début, dans un premier temps, la question de la philologie. J'en donnerai deux illustrations, parce que ce que j'entends par cette notion de philologie numérique, non pas philologie du numérique, on y reviendra. Puis après, certains des aspects des questions épistémologiques qui me semblent aujourd'hui tout à fait essentiels et déterminants. Dans un premier temps, il est peut-être intéressant de revenir un petit peu, surtout qu'aujourd'hui, les humanités numériques, peu importe la définition qu'on va donner de ce domaine, ce n'est pas une discipline, on est en train de se disputer les uns et les autres. Est-ce que s'agit-il d'humanité digitale? Comment les définir? Comment les situer? Peu importe. Mais peut-être ce qui est le plus révélateur, c'est de revenir sur les histoires qu'on a aujourd'hui. Et on a maintenant plusieurs bouquins, plusieurs essais ici ou là, des deux côtés de l'Atlantique, sur la genèse et la généalogie, si j'ose dire, des humanités numériques. L'histoire classique qu'on connaît tous par cœur, je vais aller très très vite parce que vous la connaissez probablement mieux que moi, nous dit que c'était un jésuite, c'est souvent le cas, surtout si vous êtes dans les domaines des études religieuses d'une certaine époque, le père Buza, qui est en quelque sorte le fondateur dans un premier temps, grâce à ses travaux sur l'œuvre monumentale de Thomas d'Aquin et ses liens avec, à l'époque, la grande entreprise IBM. Et de ce point de vue-là, on a toute une généalogie, toute une manière de faire et de concevoir les rapports entre l'informatique et les recherches, que ce soit en théologie ou en sciences humaines, et qui vont se concentrer concentrer sur les questions du corpus, sur les questions des ontologies et de la sémantique. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, avec l'arrivée de la massification des données et un certain développement, ce qu'on a pu appeler en suivant Moretti la lecture à distance, de sortir d'une œuvre simple à des lectures qui ne sont pas possibles pour un lecteur individuel ou solitaire, peu importe son érudition, et essayer d'élargir un petit peu le champ. Alors, dans ce cas-là, effectivement, c'est tout à fait justifié. Moi, je vais proposer deux autres généalogies qui ne sont pas du tout contradictoires avec l'histoire et surtout l'héritage tout à fait important du père Buzyn, mais qui sont plutôt complémentaires. Et pour moi, je crois que c'est également important et essentiel pour ce qui nous réunit aujourd'hui, ce matin. Le premier, je dirais que c'est Turing lui-même qui est peut-être un des fondateurs des humanités numériques. Il suffit de relire le texte classique aujourd'hui qui est devenu heureusement très très connu, mais à mon avis, il est souvent mal interprété, si je me permets de le dire, Computing Machinery and Intelligence. C'est un texte classique où on va avoir la mise en place à la fois du jeu de l'imitation et puis tout un développement autour de la construction de ce qu'on a appelé aujourd'hui la machine Turing. À l'époque, on parlait d'autre chose et je vais y revenir, on parlait de la machine Church-Turing, c'est important. Parce qu'on a oublié M. Church. Alors évidemment, Church, c'est église en anglais. Et pour moi, j'y tiens pour des raisons évidentes à la fois qu'en philologue. Mais on y reviendra en quelque sorte. Pourquoi insister sur Turing? Parce que dans ce texte de Computing Machinery and Intelligence, après avoir développé le jeu de l'imitation, les deux possibilités, les deux voies qu'il voyait pour le développement de l'informatique, d'un côté, celui du calcul qui va être représenté d'une façon assez rapide, je simplifie évidemment, mais si ça vous intéresse, on peut y revenir dans les discussions un peu après, avec le modèle des jeux, mais surtout des jeux comme les échecs, avec tout ce qui est de l'ordre de la computation et de la rapidité du calcul. Et de l'autre côté, il y a le jeu de l'imitation, qui est plutôt un jeu social, qui va impliquer une certaine manière de prendre en compte le milieu, l'écosystème, dans lequel la soi-disant machine est insérée, et surtout, c'est un modèle d'apprentissage. Ce qui va être tout à fait essentiel, c'est comme l'enfant, il va comparer sans cesse la machine soi-disant pensante. Il parle de thinking machine, pas de machine intelligente à l'époque. Il va comparer cette machine à l'enfant qui est inséré dans un milieu, qui va apprendre de son milieu certaines choses qu'il peut dire, certaines choses qu'il ne peut pas dire, à quel moment. Et surtout, les deux questions qui vont, en tout cas, sur lesquelles je vais insister, c'est à quel moment l'enfant va arriver à un certain âge où il devient une personne. Il a une caractéristique qui va lui permettre d'avoir une identité unique, mais en même temps, il va pouvoir fonctionner dans un milieu social qu'il a su déchiffrer en apprenant. Et tout ce modèle de l'apprentissage est déterminant. Alors, effectivement, dans ce cas-là, il va aussi, à la fin, dans la conclusion de son article, développer 10 objections. Et c'est là où on va retrouver presque toutes les dimensions qu'on trouve aujourd'hui avec les humanités numériques. La première objection, c'est celle de Dieu. Est-ce qu'on va pouvoir créer, comme Dieu a créé l'homme, une machine? Vous imaginez tous les débats actuels sur l'intelligence artificielle, sur l'autonomie, sur la perte de l'autonomie de l'humain et de sa maîtrise sur sa création, sur sa créature. Évidemment, on est, quant à moi en tout cas, dans un fantasme monothéiste, parce qu'on ne résiste pas à identifier cet acte de création avec le récit de la chute de la Genèse, et du coup on va toujours retrouver le golem ou d'autres scénarios qui nous sont extrêmement familiers. Et à avoir aussi l'objection de Shakespeare, est-ce que la machine va pouvoir écrire un poème aussi élégant, aussi important, aussi dense que Shakespeare? Et du coup, on va avoir toutes les questions sur la créativité poétique et littéraire, qui aujourd'hui sont extrêmement familières et qui reviennent sans cesse dans les débats autour de ce que la machine, dans le sens dont on utilise ce mot aujourd'hui, je ne vais pas décliner, mais on voit tout de suite qu'énormément des aspects qui sont associés au domaine de recherche, que ce soit dans la formation des corpus, que ce soit dans la sémantique, dans les ontologies, que ce soit même dans la visualisation, parce qu'il en a fait pas mal, et on peut décliner tous les éléments, les représentations de la complexité, ainsi de suite, sont déjà en germe dans le texte de Turing. Mais en même temps, il y a une autre genèse qui est également importante et qui a été un petit peu obfusqué, si j'ose dire, à cause de la réception surtout française, philosophique de l'époque et un petit peu technicienne, si j'ose dire, c'est celle de la cybernétique. C'est la pensée de Norbert Wiener qui a été associée presque uniquement à une manière de se penser et de représenter la cybernétique et qui a oublié que Wiener, c'était un enfant prodige, parce que vous connaissez son histoire, qui a fait deux thèses en même temps, une en philosophie, une en mathématiques, puis après il a été l'instigateur de la cybernétique, mais il a toujours réfléchi, il a toujours pensé sur les aspects socioculturels et même religieux et théologiques l'apparition de ce qu'on appelle aujourd'hui l'informatique. Il me semble qu'il est intéressant et même important de revenir sur certaines des contributions de Wiener pour deux raisons. Parce qu'aujourd'hui, et surtout en France, comme vous le savez, il y a une préoccupation assez importante autour des questions éthiques associées à ce que l'informatique fait, que ce soit du côté des responsabilités de la solidarité sociale. Le travail, c'est le cas classique, mais on va beaucoup plus loin. Une certaine éthique du numérique. Je crois qu'il y a même une discussion aujourd'hui autour de la nécessité de former un conseil national d'éthique numérique, parce qu'on arrive à un certain moment où on commence à s'interroger, comme avec les sciences du vivant et la modification de l'humain, on a parlé de l'ADN et ainsi de suite, on n'est pas loin des mêmes interrogations avec le numérique. Et il se trouve que Wiener a écrit le grand livre God, Golem, Inc., qui posait la question qui est toujours la même aujourd'hui. Et je crois que c'est tout à fait important de retrouver ces dimensions-là pour essayer d'interroger à la fois pourquoi cet oubli. Et pourquoi on y revient par des billets assez complexes? Souvent, c'est assez intéressant d'observer. Il est beaucoup plus facile pour nous de revenir par Asimov, la science-fiction, que par un scientifique qui était beaucoup plus proche et qui, quand même, a fait deux romans de science-fiction. Un qui est lisible et l'autre qui est beaucoup plus intéressant. Je vous invite à découvrir l'œuvre de Wiener. Voilà. C'est juste pour vous donner que déjà dans l'histoire de l'informatique, dans les années 40-50, on a une diversité et une richesse qu'on a souvent oubliée parce qu'on a une histoire très, très linéaire et simplifiée de cette évolution. On en parle déjà seulement de 4 années. Hein. On part entre les années 40-45, c'est-à-dire juste la Deuxième Guerre mondiale avant d'avancer. C'est important pour une deuxième dimension qui, pour moi, m'intéresse beaucoup aujourd'hui parce qu'elle explique certains des clivages qui existent entre un point de vue européen et un point de vue américain qui aussi se traduit par des choix qui se font ailleurs, que ce soit du côté russe ou que ce soit du côté chinois. Et là, on va avoir deux écoles qui peuvent être assez divergentes. La première école, elle est inscrite, mais complètement dans une tradition européenne de l'émergence de l'informatique. Et là, effectivement, on va avoir Turing, von Neumann, et Gödel qui est derrière avec son théorème classique de l'incomplétitude et la manière dont Turing et von Neumann les ont utilisés. Mais il se trouve que, ça vous dit quelque chose, je sais pas si vous êtes très familier avec cette dimension, c'est autour du théorème de Gödel qui disait qu'il n'existe pas de métalangage dans la logique formelle pour représenter dans toute sa cohérence le système de la logique elle-même. Alors cette observation peut paraître simple, mais elle a été poussée par Turing dans un premier temps pour dire que cette forme d'incertitude est constitutive de l'informatique elle-même et elle va donner lieu à la stochastique, c'est-à-dire à l'étude de passage vers un modèle qui n'est plus celui de la régularité, mais plutôt de la probabilité. Et ce changement de paradigme, effectivement, est constitutif de l'informatique. On le voit aujourd'hui avec l'algorithmique, effectivement, qui est basée en quelque sorte, je vais y revenir dans quelques instants. Mais il se trouve qu'il y a une autre tradition américaine et pragmatiste et qui a aujourd'hui ses grands héritiers en informatique qui me semblait un peu marginalisée dans les histoires officielles. Je pense tout d'abord à une figure importante, Émile Post, puisque ça veut dire quelque chose. C'est un mathématicien américain qui était très particulier, qui avait fait la même démonstration que Gödel bien avant lui, mais il n'avait pas publié son texte pour des raisons personnelles compliquées. Il avait un peu plus tard rencontré Gödel, ils ont échangé, il y a même des gens qui disent que Gödel l'a plagié à la fin, il y a pas mal de choses. Mais ce qui est intéressant avec Émile Post, c'est qu'il a à la fois été un des pionniers de la théorie de la récursivité, qui est déterminante et essentielle pour l'informatique, effectivement. Il a passé, comme M. Turing, une année à Princeton, c'est assez curieux, en travaillant avec Alonzo Church, le même monsieur. Hein. Et puis après, il a continué à travailler. Alors lui, il a une influence énorme sur l'informatique, alors qu'il n'a jamais touché, ni même rencontré un informaticien. Ses héritiers aujourd'hui sont trois, je vais les nommer, peut-être si on a le temps, on va y revenir, qui sont aujourd'hui assez importants. Le premier, c'est Leslie Valiant, ça vous dit quelque chose, c'est un Turing Prize, qui est le développeur qui est à l'origine d'une méthode qui s'appelle le PAC, Probably Approximately Correct, qui est utilisé dans presque tous les algorithmes, hein, mais qui a fait un très grand livre qui s'intitule Probably Approximately Correct en anglais, que malheureusement ça n'a pas été traduit, où il essaie de penser comment l'algorithmique, la science algorithmique, et on va revenir sur cette définition, c'est là où on va retrouver la philologie curieusement, peut donner lieu à un certain clivage dans la nature et la valeur, les valeurs du savoir et des connaissances qui peuvent être produites par l'informatique. D'un côté, selon lui, je crois qu'il n'est pas le seul, on est dans notre histoire avec des savoirs qui sont produits par des humains. Malgré la complexité, la richesse, la diversité, mais on arrive à un certain moment, à la fois grâce aux modèles d'apprentissage qui sont inspirés des travaux de Turing et d'autres, et avec toutes les évolutions depuis, à un certain moment, on va avoir peut-être deux formes de savoir et de connaissances qui seront produites. Une première, qui est celle qui nous est complètement familière, et une autre qui commence à émerger et qui est produite par les algorithmes eux-mêmes. Et la question qui va se poser, comment doit-on se positionner vis-à-vis cette émergence qui, pour la première fois, est de nature non humaine. Je vous rappelle, si vous êtes lecteur de Norbert Elias, il nous décrit que ce qui l'intéresse dans le processus civilisateur, c'est le laboratoire de l'humain avec ce qui est non humain. Et là, on est dans une certaine forme d'élargissement de ce domaine et de ce champ de travail qui commence à venir. Alors, effectivement, d'un côté, on peut revenir sur ce que les algorithmes peuvent produire, mais je vais y revenir dans quelques instants. Pour donner une idée pourquoi c'est important, je vais revenir sur Turing, parce qu'il est peut-être le plus accessible. On n'a pas besoin des mathématiques complexes pour comprendre les enjeux. Et je vais parler de la thèse de Turing, non pas de ses articles publiés. Il a fait une thèse à Princeton, on ordinals, 1938, sous la direction de Alonzo Church. Côté mathématique, je ne vais pas entrer dans les détails, je vais en prendre deux aspects tout simplement qui me semblent aujourd'hui absolument extrêmement riches pour les questions épistémologiques. Turing va dire, il va distinguer à mon avis entre la computation et le calcul. Et c'est là où c'est l'enjeu premier et principal. Le calcul, comme vous le savez en informatique, tout l'enjeu c'est le temps. À la fois le temps du calcul et ce qui distingue en quelque sorte les mathématiques de l'informatique, c'est la question du temps et de la temporalité. Les mathématiciens ne s'intéressent pas beaucoup au temps, alors que pour l'informatique, le temps est essentiel. C'est le temps de calculer, la gestion du temps, le timestamp, tout ce qui est marqué d'une façon absolument puissante et déterminante par le temps. Pour le mathématicien, ce sont les relations davantage complexes entre les objets, sans prendre en compte le temps du calcul, qui explique pourquoi on a ce qu'il y a une chanson, si ça vous intéresse et vous êtes geek, qui s'appelle NP et P, c'est-à-dire le temps polynomial et le non polynomial. On va essayer de réduire, de passer du polynomial non polynomial au polynomial pour réduire le temps de calcul et la complexité. Les geeks ont une chanson très célèbre, vous pouvez la trouver. Mais ce qui est intéressant chez Turing, c'est le calcul, c'est cette manière de partir de ce qui est incalculable, de ce qui est indéterminé et indécis, à partir du système et du théorème et des conséquences et des suites de Gödel, pour essayer de trouver des solutions. Et du coup, alors il y a eu un échange tout à fait remarquable. C'est là où on va retrouver les questions épistémologiques entre Turing et Wittgenstein autour de cette dimension du calcul. Je vous donne la conclusion de Wittgenstein, qui est aujourd'hui disponible dans la traduction française du petit livre, mais qui est remarquable à relire du point de vue de l'histoire de l'informatique, de la certitude. Il dit, on a appris ce qu'est calculé en calculant. Et moi, j'insiste sur le fait, on a appris. Pas seulement ce qu'est calculé en calculant, mais c'est la dimension de l'apprentissage. C'est là où il va contester la dimension autonome de la machine à la Turing, pour dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage de ce que c'est que le calcul, que peut-être la machine peut y accéder à un certain moment, mais néanmoins, nous, on a besoin aussi, comme humains, d'essayer de saisir cette dimension de l'apprentissage. Je vais y revenir. Alors, c'est une définition qui est celle du calcul. La computation, c'est complètement autre chose, et c'est là où on entre dans une question peut-être plus intéressante. Selon Turing, si je ne me trompe pas en relisant sa thèse, la computation, c'est la manière de représenter sous des formes symboliques qui ne sont pas déterministes les abstractions qui rendent possible la pensée humaine. Et là, on change complètement de registre. On n'est plus sur résoudre des équations complexes, en tirer certaines conclusions en visitant des données, mais plutôt essayer de transférer, de convertir, mais dans le sens étymologique du mot épistrophé, hein, qui était un mot de géométrie en Grèce avant d'être utilisé pour parler de la conversion religieuse, hein, de convertir les représentations et les notations symboliques vers la machine pour que la machine puisse accéder à quelque chose qui est de l'ordre de la pensée. C'est dans ce cas-là qu'on commence à entrer dans des questions épistémologiques qui sont extrêmement importantes et qui nous invitent à interroger les usages dont on fait, nous, dans nos domaines, entre historiens, entre littéraires, entre anthropologues et autres, quand on amasse des données, quand on les représente en les notant par le biais de l'informatique, et ainsi de suite, parce qu'il y a quelque chose qui change. Et ce changement est de qualité et de nature, et qui confronte, je dirais, deux pensées, non pas seulement une pensée représentée d'une façon linéaire entre l'humain et ses désirs et ses choix, mais plutôt il y a cette sorte de dialogue, si j'ose dire, une structure dialogique qui se met en place. Et là, effectivement, il y a toute une voie qui est ouverte. Vous pouvez retrouver l'héritier de cette manière de penser, avec, qui est toujours vivant, hein, quelqu'un d'assez remarquable. Les scientifiques le connaissent par cœur parce qu'il a inventé un outil extrêmement puissant qui s'appelle Mathematica, qui est utilisé par tous les grands scientifiques, c'est Stephen Wolfram, mais qui a fait aussi des travaux, on va dire, philosophiques, théoriques, dans la suite von Neumann, Wiener, ainsi de suite, où il se pose la question suivante, et c'est là, il me semble, les dimensions épistémologiques sont extrêmement puissantes. Je n'arrive pas à le traduire très bien en français, j'allais m'excuser, mais je vais essayer. Et il dit que peut-être, et c'est assez intéressant, et je crois qu'il a raison, il est curieux de voir dans les grands historiens, dans les grandes histoires des sciences du XXe siècle, l'informatique ne figure pas. On a consacré les œuvres à ce qu'on appelle en anglais « big science », physique, chimie, les sciences du vivant, la biologie, et ainsi de suite, alors que l'informatique était pensée quelque chose qui vient aider, qui vient faciliter, qui vient rendre possible des formes de simulation, de découverte et peut-être d'innovation, mais néanmoins, ça n'a pas du tout été pris en compte comme science à part entière. Alors, il se trouve aujourd'hui, il n'est pas le seul à le dire, on en est tous conscients, et les scientifiques sont les premiers à dire, on ne peut plus faire de la science sont informatiques, et la nature de la recherche scientifique a été transformée radicalement par l'informatique. Ce n'est pas simplement une technique et en ultime, c'est quelque chose de radicalement autre. Alors, pour le dire à sa façon, il dit que peut-être la plus grande découverte du XXe va être, précisément, c'est la computation. Et dans la computation, on va distinguer deux domaines. Le premier, c'est ce qu'on appelle la raison computationnelle, et le second, c'est la pensée algorithmique. La raison computationnelle, elle est relativement simple. Je vais prendre la version peut-être la plus accessible de Janet Wink, qui était à Carnegie Mellon à l'époque, qui dit c'est savoir formuler des questions pour que la machine computationnelle puisse nous en donner des réponses pertinentes. C'est un exercice de contrainte et d'adaptation à la logique du calcul computationnel. Du coup, ce qui explique pourquoi la programmation, c'est un double apprentissage. À la fois apprendre le langage de la programmation, mais aussi apprendre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible selon le choix du langage, selon le choix des données, selon le choix du calcul qu'on fait, et ainsi de suite. Alors que la pensée algorithmique, elle est complètement autre chose. Et là, on va retrouver une philologie qui m'intéresse beaucoup. Pour commencer avec l'aspect peut-être le plus simple de la pensée algorithmique, je vais revenir au texte de Turing, celui de 1948-50, Computing Machinery and Intelligence. Dans ce texte, il va décrire la machine, il va donner la manière de la fabriquer, comment stocker de la mémoire, comment faire du calcul, et ainsi de suite. Il va comparer cette machine à l'enfant qui va évoluer, comme j'ai raconté assez vite. Et après, il va prévoir un petit peu, dans 50 ans, où est-ce qu'elle peut y arriver, est-ce qu'elle va pouvoir faire des calculs beaucoup plus complexes. Mais il y a une phrase tout à fait remarquable et qui est souvent négligée, même dans l'édition savante de Oxford, vous pouvez regarder la note en bas de la page. Il dit, si vous voulez comprendre tout ça, regardez la Constitution des États-Unis. Alors évidemment, la note nous dit, c'est l'humour à l'anglaise, voilà, il se moquait de nous, peut-être. Moi, je ne suis pas sûr. Je crois qu'il faut prendre peut-être, comme disait à l'époque Lacan, les choses à la lettre et voir pourquoi il a choisi d'envoyer, dans un débat extrêmement technique et complexe et pas du tout évident, hein, on parle de 1948-49, à un texte quand même politique, on va dire,
Alors, effectivement, on trouve deux éléments, trois éléments en tout cas, mais deux, dans la Constitution américaine. Le premier, c'est le seul document, on va dire, fondateur d'une démocratie occidentale, qui inclut une clause qui est consacrée au copyright et à la propriété intellectuelle. En France, ce n'est pas le cas. La Magna Carta en Royaume-Uni, ce n'est pas le cas. Vous pouvez regarder partout. Ce n'est pas du tout la question qui intéresse les gens qui ont fabriqué ces documents. On se demande pourquoi. Et quand on regarde de près, le texte de la Constitution est très clair sur ça. Et ce sont les héritiers quand même du siècle des Lumières. Ils ont incarné toutes les contradictions du XVIIIe siècle. D'un côté, ils nous disent qu'il faut absolument rémunérer les créateurs et les inventeurs. Mais en même temps, il faut s'assurer de la libre circulation du savoir et des idées. Et c'est précisément cette contradiction qu'on est en train de vivre toujours aujourd'hui, que ce soit dans la gestion de la propriété intellectuelle, mais pas seulement du point de vue juridique et économique, mais plutôt du point de vue de la manière dont on conçoit nos rapports avec l'héritage, qu'il soit littéraire, historique ou autre, la manière dont on va le transmettre, le convertir en numérique, et les conséquences et les suites de cette façon de faire. Et là, on voit très bien, il y a quelque chose d'assez déterminant. Mais le second aspect m'intéresse beaucoup plus, parce que là, ça va nous entrer dans des aspects plus techniques, c'est que la Constitution américaine a mis en place une manière de faire la loi qui est très différente. C'est le « common law », mais non pas dans la tradition anglaise. Et qu'est-ce que c'est le « common law » Je vais simplifier les choses. Il y a un juge qui est élu pendant un certain temps, et ces dates sont provisoires, ce n'est pas à l'éternité, par les citoyens. Et ce juge va visiter un cas qui lui est présenté, il va prendre en compte les cas précédents qui ont eu lieu, mais surtout il va prendre en compte pas seulement l'histoire des décisions juridiques passées, mais surtout les nouvelles conditions qui ont émergé dans la société. Du coup, son acte juridique, c'est un acte d'interprétation. Alors, pour traduire ce geste juridique, c'est précisément la façon dont l'algorithme fonctionne, ce qu'on appelle chez Turing la validation provisoire. Vous allez visiter avec un algorithme un ensemble de données, vous allez en tirer quelques conclusions. Avec l'arrivée de nouvelles données, vous avez oublié les premières conclusions, revenir sur les données à la fois nouvelles et anciennes, en prenant en compte l'évolution, qu'elle soit temporelle ou d'autres variables, et revisiter pour produire de nouvelles données. C'est une forme d'apprentissage, c'est aussi une forme de produire du savoir qui n'est pas fixe, qui n'est pas dans la régularité, mais qui est plutôt une herméneutique. Je crois que c'est ça l'enjeu peut-être le plus intéressant qu'on peut tirer de cette manière de penser la pensée algorithmique. Dans ce cas-là, effectivement, vous êtes en droit de dire pourquoi il nous raconte cette histoire et il veut parler de philologie. Alors effectivement, tout ça dépend de comment on va définir la philologie. Comme vous le savez, il y a la philologie universitaire qui est très, très respectable, mais ce n'est pas celle-là dont je vais parler. Quand même, il y a une autre tradition tout à fait intéressante. Évidemment, le représentant le plus visible, le plus connu, ça va être Nietzsche, hein, qui avait les philologues de l'université et les philologues poètes, mais il avait un héros qui s'appelait Leopardi, on ne va pas en parler. Mais par contre, je vais vous donner une définition de la philologie tirée d'un Italien, qui est quand même qui était l'auteur d'un ouvrage très important pour certains, en tout cas, qui en France a une réception assez particulière, en tout cas, c'est Vico, dans La Nouvelle Science. Je ne sais pas si vous vous rappelez la définition. Il dit que la philologie, elle observe le travail de la liberté humaine. Et là, je crois qu'on voit tout de suite qu'on a changé de registre. On n'est plus dans l'étude des mots, dans le sens des étymologies, des transformations linguistiques, dans les usages, des passages et des transformations, mais plutôt on est dans le regard sur à la fois les liens et les rapports complexes qui peuvent être incarnés par un regard philologique entre les institutions et la société civile. Entre le faire et le dire, à la fois du point de vue collectif et du point de vue individuel, c'est là où se situe le travail et le regard philologique. Il se trouve que l'informatique et le numérique aujourd'hui nous invitent précisément à visiter cette question et de faire de la philologie dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, on est tous d'accord, je crois, que le numérique a modifié notre rapport avec le patrimoine, avec les archives, avec l'héritage. Mais au-delà de là, et là, je crois que Jean-François va en parler mieux que moi, on peut donner une définition extrêmement simpliste, naïve même, vous allez dire, de la culture. La culture, c'est apprendre et transmettre. apprendre quoi et transmettre à qui et comment. Et le numérique aujourd'hui ne fait que modifier sans cesse à la fois les modèles et les modalités de l'apprentissage, que ce soit du côté de la machine ou du côté de nos humains, et en même temps, il va modifier d'une façon assez importante et assez radicale notre manière, notre façon de transmettre. Une simple illustration. Je suis intéressé depuis un certain temps à un projet sur lequel je travaille, s'appelle les ruines numériques. Pour être dans un cas français très très classique, on va prendre deux figures connues, en tout cas célèbres du 19e siècle, Renan et Volney. Comme vous le savez très bien, ils ont voyagé en Orient, à l'époque c'était ce qu'il fallait faire. Ils sont arrivés à Jérusalem et à Athènes, ils ont regardé les ruines de l'ancien temps, ils ont fabriqué des discours qui ont marqué l'histoire des civilisations, ainsi de suite. Alors imaginez quelqu'un qui va rêver un Renan, un Volney, un idéologue du 22e siècle, il va arriver à Paris, et quelles seront les ruines numériques? Est-ce que ça va être le code? Ça va être les plateformes? Ça va être les interfaces? Et vous allez tout de suite vous rendre compte qu'en fait, ce qui les intéresse tous les deux, c'est la pierre qui inscrit, qui transmet, et qui est comme le garant de la continuité de cette transmission. Il se trouve que le numérique, il est mou, soft. Et cette dimension de la mollesse, de la douceur, si vous voulez traduire autrement le mot, elle est extrêmement puissante parce qu'on peut conserver le code. Il y a un très beau projet pour faire des archives du code par l'INRIA, qui a été lancé, je crois, il y a un an et demi, mais ça ne peut pas toujours reproduire, sauf par les émulateurs qui vont être très compliqués, les interfaces, les expériences, et ainsi de suite. On voit très bien que le registre a changé, et du coup, on est en droit de s'interroger qu'est-ce que cela peut impliquer. Et là, je crois qu'il va y avoir besoin d'un certain travail qui sera plutôt impliqué dans la manière dont quelqu'un comme Vico a conçu les choses en philologie plutôt que la philologie classique. Mais pas seulement ça avec le patrimoine, puisqu'on est encore pour un instant. Ce qui a changé aussi, on a inverti, c'est le numérique qui l'a fait introduire, notre rapport avec à la fois l'archive et le patrimoine. D'habitude, évidemment, j'exagère beaucoup, ce qui fait l'archive, c'est ce qui a survécu, avec quelques exceptions comme ça, mais en fait, ce qui a survécu. Avec le numérique, il faut choisir ce qui va survivre. Vous consultez la BNF, ils vont vous dire, si on ne choisit pas de convertir, conserver et continuer à le faire, ça va disparaître en patrimonieux. Et du coup, cette inversion de perspective et de position implique également un choix à la fois politique, social et éthique. Qui va choisir, selon quels critères et pour qui? Et c'est vraiment une question qu'on se pose sans cesse, ce qu'on va transmettre. On voit très bien que cette option, ça va aller même plus loin. Dans le passé, ça, on le voit très bien, que les archives nationaux, vous êtes en France, je n'ai pas besoin de le répéter, mais c'est pareil aux États-Unis ou au Royaume-Uni, c'était monumental. La BNF, British Library, Library of Congress, c'est des trucs architecturaux énormes. On les voit de loin. Ils incarnent une certaine histoire nationale, une certaine volonté de se représenter à la fois l'histoire et les savoirs. Avec le numérique, le monumental disparaît. Il est un peu perdu et à la fois, il vient nous chercher. Alors qu'en passé, on allait le chercher, on peut faire toutes ces études. C'est juste un élément où on voit très bien que le rôle de cette transformation entre la société civile et les mots qu'on utilise change. Un autre aspect qui est très, très différent, où la philologie à la Vico me semble extrêmement peut-être pertinente aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu maintenant presque une obsession, je dirais, en tout cas pas seulement en France, mais surtout en France peut-être, puisque même il y a un projet de loi sur cet aspect-là qui est assez surprenant pour moi, c'est tout ce qui est autour de la post-vérité. Effectivement, c'est un mot qui a été inventé en 2006, on a mis du temps, mais aujourd'hui on ne cesse de parler de post-vérité et de fake news et tout ce que le numérique a rendu possible pour s'éloigner de cette dimension-là. Évidemment, c'est la première fois qu'on voit les philosophes réagir de façon absolument comme scandalisée parce que c'est arrivé, parce que soudainement la vérité s'est trouvée un petit peu fragilisée, etc. Mais moi, j'ai envie de dire qu'au lieu de post-vérité qui va l'inscrire dans tout ce qui est post, post-humain, post-moderne, ainsi de suite, peut-être il vaut mieux être plus concret et prendre le mot, parler de soft-vérité, pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'on a eu l'exercice de soft power pendant très très longtemps. Et quand c'était nous les Occidentaux qui le pratiquaient, c'était bien. Quand c'est les Russes qui le pratiquent, c'est pas bien. Je suis désolé, point de vue objectif, on parle pas après des conséquences, il y a quelque chose qui va pas. Alors évidemment, ça peut entrer dans toute l'histoire du soft. On a parlé de soft borders pour les frontières, hein, l'espace Schengen, c'est bien ça. On a vu très bien que le mot soft s'est introduit au fur et à mesure pour toucher non pas seulement au statut de la vérité, de la propagande et de certaines intentions politiques, mais surtout aussi de modifier la notion de souveraineté des États, et qui revient aujourd'hui avec les débats autour du Brexit. Mais pour moi, c'est même secondaire. Ce qui est intéressant, c'est la soft vérité dans le sens du software. Et là, je crois, on est sur un autre registre. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde de près, ce qu'on est en train de décrier, c'est le fait que la vérité est soumise aux conditions de l'environnement numérique lui-même. Et cet environnement numérique se trouve aujourd'hui incarné en quelque sorte par les grandes plateformes qui ont intérêt à vendre de la publicité et du coup elles tolèrent des formes d'intervention qui pour nous se trouvent irrecevables pour des raisons éthico-politiques et pas nécessairement économiques. Et du coup il semble que c'est cette dimension de software. Et on voit très bien qu'elle a joué un rôle tout à fait important. Je vous rappelle la phrase célèbre de Mark Anderson, c'est en 1999, « Software is eating the world ». Software est en train de dévorer le monde. Pourquoi ? Parce que ça devient partout. Et en même temps, on a oublié qu'avec cette prolifération du software, il y a quelque chose de radical qui s'est introduit. Et aujourd'hui, on est confronté à cause des choix politiques, avec l'élection de telle ou telle personnalité ou autre, mais en même temps, ce sont des effets de cette dimension du software qui sont importants. Et c'est dans ce sens-là on peut retrouver à la fois les questions que j'ai essayé d'évoquer de façon un peu peut-être éloignée de la pensée algorithmique. Et moi, ce que j'aimerais bien développer pour les 10 minutes ou un peu plus qui me reste avec vous, c'est précisément cette dimension, ce que on pourrait dire une herméneutique algorithmique. C'est-à-dire à la fois pour retenir la notion d'herméneutique, mais non pas dans la tradition exclusive depuis Schleiermacher et compagnie jusqu'à Gadamer avec une tradition philosophique imprégnée derrière, mais plutôt du côté du software. Comprendre ce que le software fait, comment il est conçu, comment il se déploie, comment il interagit et surtout comment il fait monde. Je crois là, c'est un enjeu énorme parce que ça donne à la fois accès à une autre manière de voir toute une série de grandes catégories qui nous sont importantes, que ce soit la vérité, que ce soit la créativité, que ce soit toute une série de choses, des domaines anthropologiques ou autres qui peuvent se les interroger à leur façon, sur leur histoire particulière d'une discipline ou d'une autre. Et dans ce cas-là, peut-être, on a quelques manières d'y revenir historiquement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas eu le temps de développer Emil Post, ce mathématicien américain, parce que lui, il va s'inscrire dans une tradition pragmatiste, dans le sens de pragmatisme américain. Donc, je vous rappelle, le père fondateur, c'est un monsieur qui est très connu en France, mais pas toute l'œuvre quand même, c'est Charles Sanders Peirce. Alors, Peirce est connu pour la sémiotique, l'index, et ainsi de suite, mais il a fait beaucoup autre chose quand même. Enfin, ses héritiers, si vous voulez, si vous êtes en philosophie analytique, ça va être C.I. Lewis, Quine, et ainsi de suite. Mais quand même, il a fait un très beau texte à la fin du 19e siècle, où il essaie de refaire l'histoire du 19e pour voir comment le 20e va se représenter ce siècle terminant. Le titre du texte, il est disponible en ligne. Je vous invite à le lire parce qu'il est aujourd'hui d'une actualité assez surprenante pour moi. C'est du Evolutionary Love. Évidemment, quand on voit le titre, on ne voit pas très bien. Qu'est-ce que t'as. Alors, ce qu'il va essayer, il va dire comment va-t-on résumer le 19e siècle. Il dit on va le résumer comme le science économique par excellence. Mais économique dans le sens de science d'économie politique. Pas de l'économie dans la manière dont on entend aujourd'hui le mot. Dire ça, c'est pas mauvais, ça c'est très très bien, mais il se trouve qu'il y a une certaine perversion qui s'est installée très très vite. Et cette perversion, c'est une certaine manière de faire que cette science politique de l'économie a donné lieu, par des choix d'individus ou d'autres aspects sociaux qui ont permis ces choix de se concrétiser, à créer de très grands monopoles. Et pour lui, c'est là où il y a une certaine manière où des grandes fortunes vont être dans les mains des très peu, on va dire, happy few, il reprend l'expression. Et puis après, il traduit ça par une très belle phrase américaine, the greedy master of intelligence, le maître vorace de l'intelligence. Et moi, ce que je vous propose, ce dont il avait décrit ce sens qu'on appelle en anglais, en américain en tout cas, une très belle expression, qui c'est the robber barons. J'espère que vous êtes familier avec les barons voleurs. Les barons voleurs sont 5 ou 7 familles, 7 noms. Hein. C'est les Ford, Vanderbilt, Mellon, Carnegie, qui venaient de familles émigrées, ont créé des monopoles à la limite de la légalité, hein. Alors que ce soit les armes, le pétrole ou autre chose, ont amassé des fortunes énormes. Hein. Ils ont partagé ces fortunes avec leurs héritiers, mais surtout, ils ont financé presque toute la culture aux États-Unis. D'où Robber Barons. The Mellon Foundation, c'est effectivement les Mellon et ainsi de suite. Aujourd'hui, je dirais, depuis en fait le siècle, on est avec les Silicon Barons. Ce n'est plus les barons voleurs de la fin du 19e, début du 20e, on est avec les barons de Silicon. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle en français les GAFA ou les GAFMA. Google, Apple, Microsoft, qu'ils ont concentré. Ils utilisent l'intelligence, mais à leur manière de définir ce que c'est que l'intelligence, en le sens où on parle souvent d'intelligence artificielle. Mais ce qu'on observe quand même, c'est quelque chose, une différence radicale. Si les robber barons avaient compris que ce qui fait valeur, ce qui était valorisant, c'était la culture symboliquement, les Silicon Barons, ils ont toute une autre idée. Il suffit de regarder les fondations. C'est peut-être, on sort un peu de sujet, mais c'est intéressant. Ces fondations, vous voyez la fondation Bill Gates, c'est quoi, 30 milliards de dollars, hein, pour vous donner une idée. La fondation de Google, c'est quoi, 10 milliards, je vous donne une idée de l'échelle dont on parle. Ces fondations financent tout sauf la culture. Ça, vous pouvez faire l'étude, c'est clair, hein, il n'y a aucun doute, vous regardez. Et moi, je me suis posé la question, j'avais une étudiante qui a fait sa thèse là-dessus, en regardant les chiffres, interrogeant les officiers de ces fondations, et la réponse était toujours plus ou moins la même. On n'a plus besoin de la financer parce qu'on l'a fait nous-mêmes. Oui, on le sait en quelque sorte, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Hein. Et on voit très bien le déplacement. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, hein, au-delà de la fiscalité, des responsabilités et ainsi de suite, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça quand même nous invite à revisiter également, à mon avis, ces dimensions qui peuvent être un peu lointaines de ce que peut être la philologie, sauf sur ça. Ce qui m'amène dans le petit temps qui me reste, c'est le mot que j'avais utilisé un peu vite, c'est la question éthique. Parce qu'il me semble qu'elle est absolument extrêmement importante. Évidemment, on a plusieurs manières de penser aujourd'hui, surtout avec l'arrivée des voitures autonomes et d'autres, la robotique et ainsi de suite. Pour moi, toutes ces questions-là, ce qu'on appelle en anglais, c'est applied ethics, c'est-à-dire l'éthique appliquée à des conditions particulières, à des situations particulières de responsabilité. Est-ce que c'est l'algorithme? Les gens de l'assurance s'intéressent beaucoup, effectivement, à ces questions-là, d'autres choses. Mais la question qu'on peut se poser et qui se pose depuis, là, on revient sur les pères fondateurs de l'informatique, est la suivante. Est-ce que l'éthique est computable? Mais dans le sens de la computation, non pas du calcul. Évidemment, il y en a qui disent oui. Et là, on est confronté à une question quand même grave. Alors, comment répondre à cette question-là? À mon avis, il y a plusieurs manières de répondre. La première, c'est de revisiter quand même une figure française importante dans ce domaine, c'est Condorcet. Je vous rappelais avec le calcul social, pas seulement sur les élections, hein, mais sur d'autres aspects, et surtout ce que Condorcet avait appelé dans ses études, ses analyses de la probabilité, hein, les motifs de croire. Alors effectivement, ce que le numérique a fait dans nos sociétés, il a modifié les motifs de croire. À la fois le contexte de pertinence, l'accès, que ce soit par le biais de la recommandation ou par la sociabilité numérique, les motifs de croire ne sont plus les mêmes qu'ils étaient il y a 30 ans. Ça, on le voit très bien, ce qui suscite à la fois des angoisses dans certains cas ou des formes d'exploitation. Mais au-delà de là, je vous rappelle qu'il avait cité une thèse assez remarquable en 1713, je me rappelle très bien, mais je peux vérifier après, d'un Bernoulli, sauf que ce n'est pas le fameux célèbre Bernoulli des deux, c'était le neveu. Mais c'était le premier à faire une thèse dans une faculté de droit sur l'algorithmique. Et c'est une thèse qui est essentielle pour Condorcet et les analyses, ce qu'on appelle la thèse sur l'absent. C'est-à-dire, si vous êtes dans une société, il y a une personne qui n'est plus, qui est absente, après quel moment vous pouvez déclarer cette personne décédée ? C'est important pour l'héritage, pour la transmission, pour la gestion du lien social. Alors, ce qu'il a fait, c'est une étude mathématique algorithmique, de dire, en probabilité, on peut dire que la distribution la plus acceptable, c'est 9 ans ou 7 ans, il fait tous les calculs. Et de là, il va développer toute une théorie que l'algorithmique, effectivement, a une dimension déterminante pour la construction du lien social, Condorcet. Il va tirer des conséquences de cette thèse de 1713, et il me semble, aujourd'hui, on est dans des héritages parfois pervers, parfois pas du tout, de cette dimension. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on voit très bien que le passage au-delà du calcul vers le modèle de la computation va nous amener, comme disait Wiener dans une page célèbre, on n'est plus dans l'ère de la régularité des lois scientifiques, mais on est dans l'ère de l'indétermination et la stochastique. Et du coup, cette irrégularité qui fait la complexité va produire de nouveaux critères et de nouveaux repères qui vont toucher à tous les éléments, à tous les aspects, que ce soit l'interprétation littéraire ou bien la gestion du patrimoine familial. Alors, c'est une manière de répondre, de dire qu'on est entré dans cette phase-là. Alors, évidemment, ici, on peut avoir toute la généalogie de Leibniz jusqu'à Frege, ainsi de suite. Mais l'autre, peut-être plus intéressante à la longue, à mon avis, c'est de revenir à l'informatique elle-même. Et dire que l'informatique, si je ne me trompe pas, je ne suis pas le seul à le dire, on peut lire des gens comme Donald Knuth ou d'autres, disent que ce qui fait la force de l'informatique, c'est précisément le fait qu'elle s'est appuyée dans ses développements et de la construction de son architecture dans le sens logiciel sur l'indétermination. En partant de théorèmes, que ce soit de ceux de Post ou bien de Gödel. Il se trouve que l'éthique partage cette indétermination avec l'informatique. C'est dans ce sens-là, elle est computable, mais d'une certaine façon, de définir la computation, mais elle n'est pas calculable. Et effectivement, ici, on se retrouve dans la nécessité, si j'ose dire, de faire une philologie numérique, de revenir sur ces notions, sur ces concepts et ces conceptions qui sont extrêmement puissants et qui nourrissent et qui alimentent à la fois ce qui fabrique notre quotidien, mais au-delà de là. Et on voit très bien qu'on peut être invité à visiter tous ces aspects de ce point de vue-là. Et pour terminer, effectivement, revenir à cette question de les sciences humaines au défi du numérique, mais c'est aussi le numérique lui-même qui doit être soumis au défi des interrogations des sciences humaines. Dans ce cas-là, on a plusieurs, ça a été évoqué dans les mots d'accueil ce matin, le clivage classique entre les sciences dures, les sciences de la précision, les sciences du calcul, les sciences de la découverte dans ce sens-là, et nos sciences à nous qui sont molles, qui sont un petit peu toujours obsédées par leur histoire, leur généalogie et les héritages. Effectivement, on a les cas classiques entre les deux cultures ou les trois cultures, si vous voulez. À mon avis, ce n'est pas suffisamment convaincant, mais peut-être faut-il rappeler le très beau texte de Husserl dans la grande conférence sur l'humanisme de 1935, où il dit que le grand problème de l'héritage du siècle des Lumières, c'est précisément le triomphe de la mathésis dans son acceptation, et surtout, c'est le fait que l'ordre de la mesure, ou ce qui est de l'ordre de la mesurabilité, est devenu le critère principal de la décision sur la qualité. Alors, effectivement, quand on est en herméneutique, en phénoménologie ou en histoire et ainsi de suite, c'est l'interprétation. Et surtout, et c'est là où on va revenir sur un problème qui est toujours avec nous, dans nos domaines à nous, le consensus, c'est pas souhaitable. Si on est tous d'accord, on n'a pas grand-chose à dire. Pour les scientifiques, il y a des moments de consensus qui peuvent évoluer, qui peuvent changer avec l'arrivée de nouvelles découvertes, de nouvelles manières de se poser les questions. On le voit très bien, le quantique a modifié la théorie de la relativité, la théorie des ondelettes a modifié la manière dont on mesurait quelque chose, et ainsi de suite. Mais néanmoins, il y a des consensus qui se mettent en place. Dans nos domaines, on n'a pas besoin de consensus. En fait, on essaie de l'éviter autant que possible, parce que dans ce cas-là, on n'aura pas grand-chose à dire. Et là, on voit aussi certains des aspects qui sont problématiques avec les humanités numériques. On a tendance à vouloir chercher le consensus sur le sémantique, sur les ontologies, sur la manière de fabriquer les choses, et on décrit le fait qu'on diversifie, on se reproduit sans cesse en même temps, mais en même temps, il me semble que ça fait partie, comment dire, constitutive de l'informatique. Si vous regardez l'histoire de l'informatique, je vais prendre l'exemple peut-être le plus simple, regardez l'exemple du logiciel libre. Le logiciel libre a deux distributions dominantes, Debian et Red Hat. Et à partir de ces distributions, on a ce qu'on appelle des forks, bifurcations. Un groupe d'utilisateurs et de codeurs n'est pas d'accord avec les concepteurs ou les teneurs de l'héritage de la distribution mère, décide de bifurquer. Mais ce qui est important, le code est accessible, on peut le modifier, et on a le droit de le distribuer avec les modifications, tout en renvoyant à la version originale, ce qu'on appelle les trois libertés, dans la licence générale, General Public License. Et là, on va retrouver un petit peu pourquoi Vico dit que la philologie, c'est l'observation du travail de la liberté humaine. C'est précisément ce qui fait la richesse, non pas la pauvreté. Pour reprendre une métaphore religieuse qui est célèbre pour certains qui ont étudié les débats entre protestants et catholiques, moi, ça, j'avais travaillé pendant longtemps dans ce domaine, il y a un très beau livre extrêmement problématique, ça va de soi, de Bossuet, qui s'intitule « Histoire des variations des églises protestantes ». Et l'histoire des variations, elle a une hypothèse très très simple. La doctrine catholique, parce qu'elle est universelle, elle est toujours la même malgré les petites variations dans l'expression. Alors que les doctrines, au pluriel, protestantes, effectivement, sont hérétiques. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure, on a des confessions qui viennent s'ajouter avec les distinctions. Il se trouve en fait que c'est ce qui fait quand même une richesse assez importante, hein, qui crée des communautés qu'on célèbre aujourd'hui dans le domaine des Fab Labs, dans le domaine du fer, dans toute une série de choses, alors qu'on n'a pas besoin d'insister sur l'orthodoxie dans le sens étymologique du terme qui va être dominant. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en informatique, ça jouait quand même. S'il faut vous rappeler, moi je suis un peu âgé, je me rappelle à l'époque quand j'avais commencé à travailler dans ces domaines, on était dans des formes de monopole de format qui étaient dominées par Microsoft. Et si vous étiez sur Macintosh, vous n'avez pas droit d'accéder, hein, parce que les formats ne se reproduisent pas. Aujourd'hui, les systèmes d'exploitation, que ce soit ou autre, sont en voie de disparaître, mais il y a d'autres manières d'orthodoxie qui sont en train de se mettre en place. Ce sont les plateformes elles-mêmes qui ont évolué, qui ont venu remplacer. On va retrouver la même structure qu'on a pu voir un petit peu avec les barons voleurs, hein, qu'on retrouve aussi. Mais pour terminer, je vais peut-être retrouver un autre renvoi qui peut vous parler comme historien, etc. C'est de revenir sur un très beau texte de Walter Benjamin, hein, dans les thèses sur l'histoire. Je vais vous rappeler la première thèse sur l'histoire, qui est très très belle, qui est inspirée en quelque sorte quand même d'un Américain, Edgar Allan Poe, qui racontait dans une de ses nouvelles l'histoire de cette machine qui se promenait un peu partout dans les foires à Vienne et ailleurs, où il y avait un monsieur habillé à l'oriental, avec son truc, sa moustache et toutes les couleurs, et on jouait aux échecs contre ce monsieur, on perdait toujours. Alors, il s'appelait Turc, évidemment, en allemand, ce qui a donné le mot travail, Turc. Hein. Vous avez le Amazon Turk aujourd'hui, si vous allez voir, tous les gens qui s'intéressent au digital labor, travaille un petit peu en tout ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Benjamin ? Il nous dit, c'est assez intéressant de voir, on perd toujours, mais quand on regarde de près, il y a un nain, maître joueur d'échecs, qui est caché à l'intérieur de la machine. Et c'est la raison pour laquelle on perd toujours. Et le monsieur qui est habillé à l'oriental est une marionnette ou une poupée. Vraiment, c'est poupée. Et c'est le nain qui le manipule. Je crois que c'est cette main invisible qui est intéressante. Alors évidemment, on va retrouver à la fois l'économie avec la main invisible et on peut retrouver les héritiers de la main invisible avec Hayek, hein, qui va être l'ordre spontané. On n'a pas besoin d'une certaine intervention, que ce soit de l'autorité publique, de l'État ou même de la communauté, mais un ordre se met en place. Mais au-delà de là, la conclusion de Benjamin me semble beaucoup plus intéressante même, parce qu'il va dire qu'il faut penser cette double confrontation avec l'oriental et la main invisible et cachée, comme la confrontation entre le matérialisme historique et la révélation. Et là, il fait un saut quand même assez compliqué. Alors moi, ce que je vous propose, ça, on n'a pas le temps de développer, c'est que si c'était le cas, peut-être au début du XXe. Aujourd'hui, on n'est plus avec le matérialisme historique et ses héritages. On est plutôt avec le matérialisme numérique. Mais je prends le mot matérialisme vraiment au sens le plus simple. L'information est une matière. Il y a une très belle citation de Wiener. Shannon l'a reprise un peu après dans son grand théorème sur la théorie mathématique de la communication, que la matière, l'information, c'est de la matière. Ce n'est pas l'énergie, ce n'est pas le gaz, ce n'est pas n'importe quoi. Et si on n'accepte pas que c'est une nouvelle matière, on va faire beaucoup de bêtises. Et précisément, on a mis du temps à comprendre que l'information est une matière qui modifie à la fois les repères économiques, sociaux, et ainsi de suite. Et en même temps, je vous propose, elle modifie également la philologie, ça va de soi, et l'épistémologie, surtout des humanités numériques. Merci.
Tout d'abord, je vous remercie pour cet exposé et toutes les nombreuses questions que celui-ci soulève. On va commencer la séance de questions-réponses, bon, peut-être pour lancer le jeu. J'aurais peut-être une réflexion tout d'abord et deux questions par la suite. Tout d'abord, une réflexion par rapport au début de votre propos, lorsque vous avez parlé justement de la production du savoir. Avec d'un côté une production humaine et une seconde via des algorithmes. Pour ceux qui suivent l'actualité, j'ai vu qu'il y a deux jours de ça, un article avait été publié dans Le Monde, justement portant sur la production musicale faite uniquement par le biais de robots, Monsieur. De machines. Un album qui est sorti il y a quelques jours de cela, un album mainstream avec uniquement des machines qui créent de la musique. Ce qui soulève de nombreuses questions, puisque la musique est aussi un vecteur d'émotions, donc cela veut dire que des machines suscitent en nous des émotions, et l'aspect humain est totalement mis de côté. De même, on retrouve la même chose dans la littérature, avec des ouvrages rédigés uniquement par le biais de machines, sans qu'un humain, un auteur, soit à l'arrière. Par rapport aux questionnements que vous avez soulevés, on retrouve de nombreux éléments qui rejoignent la question, par exemple, du transhumanisme, des thématiques qui se rejoignent. Pour ma part, peut-être des formations professionnelles, mais vous avez parlé de Turing en 1948, qu'on peut considérer, j'imagine, comme étant un visionnaire sur cette question du numérique. Et je me pose la question, quelle était tout d'abord la réception de son œuvre et de sa pensée ? Et également... Pour revenir sur la question de la production du savoir, donc algorithme et humain, néanmoins j'imagine que cette production via des algorithmes s'appuie sur l'engrange de la connaissance via la production humaine. Donc quelle est la part, on va dire, de l'humain dans celle-ci ? Et peut-être pour prolonger, le numérique est pensé, est un produit de type occidental, produit par des Européens, par des Américains. Quelle est de fait l'influence occidentale sur la conception de la structure du numérique aujourd'hui et quelles peuvent être les conséquences avec l'émergence de nouvelles puissances numériques qu'on retrouve par exemple en Asie avec des GAFA de fait non plus américains mais de l'autre côté du monde et quelles vont être les conséquences sur les structures futures de notre univers numérique ?
D'accord. Merci pour toutes les questions. Tout d'abord, pour la musique, effectivement, Turing était le premier à produire de la musique avec un ordinateur. C'est 1951, c'est assez intéressant. Mais ce dont vous venez d'évoquer, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a des algorithmes qui peuvent analyser le signal lui-même pour déterminer la rythmicité, toute une série d'éléments, et qui peuvent, au fur et à mesure, évidemment, il y a des formes d'apprentissage derrière qui sont inspirées par des formes de reconnaissance de la musique classique qui passent par le savoir humain. Alors, on n'est pas dans l'apprentissage supervisé encore, mais on y arrive où la part de l'humain devient moins importante. Mais je crois que la musique a beaucoup changé. On n'a pas encore passé à ce niveau-là, par exemple, avec l'image ou la vidéo. où il y a une analyse du signal d'une façon assez conséquente et puissante, sauf pour la reconnaissance vocale, mais c'est un autre domaine. Après, tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, c'est un peu compliqué, parce qu'on a à la fois les dimensions des sciences cognitives qui ont une tendance à dire qu'ils vont pouvoir formaliser d'une certaine manière à ces dimensions-là qui seront représentées, on peut y entrer. Mais là, il y a beaucoup de choses à dire, si vous voulez. Le deuxième aspect, Turing et sa réception, évidemment, Turing a été reconnu très très tôt, évidemment, parce qu'il a fait des travaux sur la crypto, sur ce qui est le chiffrement, mais surtout les textes, il a deux articles fondateurs, celui que j'ai cité et l'autre de 1938 sur ce qui est l'incalculable, qui tout de suite ont été pris par la communauté scientifique. Par contre, il me semble que c'est relativement récemment qu'on a repris un petit peu une dimension culturelle de Turing, ce qu'on a appelé la cathédrale Turing, dans un livre célèbre en anglais qui lui a été consacré il y a une dizaine d'années. On a essayé d'élargir un petit peu, non pas juste rester dans des aspects techniques ou mathématiques avec leur manière de passer vers une certaine façon de faire à l'infondée. En même temps, il me semble que Turing est absolument central, il n'est pas le seul. Je crois que c'est ça ce qui est également très très important. Énormément de gens ont travaillé en même temps, gens qui ne sont pas très connus sauf par les spécialistes. On peut parler de Newell, de Simon, de toute une série de noms qui ont travaillé en même temps, qui ont développé des choses qui se sont intégrées. Mais peut-être la personne qui était la plus à la fois proche et pas proche, c'est quelqu'un comme von Neumann, parce qu'ils ont publié presque en même temps les textes qui sont devenus classiques aujourd'hui, que ce soit pour les sciences cognitives comme pour les modèles de la computation. C'était les deux premiers, avec Wiener à sa façon, qui est toujours un peu différente, de concevoir les neurones et le cerveau comme le modèle le plus apte à donner lieu à la machine computationnelle. Et là, on voit quand même quelque chose qui, aujourd'hui, devient davantage important, ce qui aussi a donné lieu, au début, malgré la formulation transhumaniste qui vient un peu d'ailleurs, à la notion de la singularité, qui est au cœur. C'est von Neumann qui l'avait théorisé et qui a été reprise avec d'autres. Par contre, ce qui est intéressant, puis je vais revenir aux autres questions, ce qui est intéressant, c'est que cette dimension de la singularité a été associée avec la première phase ou époque ou période de l'intelligence artificielle, celle de McCarthy, Solomonov, Minsky, etc., où on était convaincu. Mais je vous rappelle, si vous relisez le texte du fameux, célèbre Dartmouth Seminar de l'école d'été, la première phrase parle d'apprentissage et pas d'intelligence. Hein. On a oublié. Malgré ce que l'intitulé, vous savez, machine learning, c'est le mot qui est dans la première phase. Et je crois, mais c'est le mot intelligence qui a gagné, si j'ose dire, pour un certain temps. C'est juste pour dire que cette dimension est associée à cette époque, puis après on a eu toutes les... Mais par contre, ce qui est resté, et là, je crois les transhumanistes aujourd'hui sont beaucoup plus astucieux, plus intelligents, ils ont abandonné la conscience, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est un mur, et ils ont déplacé les intelligences vers des notions d'autonomie. Et l'autonomie, effectivement, est beaucoup plus intéressante parce qu'on peut l'imaginer à des choses qui ne sont pas humaines. Et du coup, on peut arriver à une certaine forme d'autonomie dans ce sens à la fois juridique et social de la machine, alors que la conscience reste... On n'a pas de définition consensuelle, on a beaucoup de choses qui sont parlées, alors que l'autonomie, effectivement, et il se base précisément, curieusement, sur des décisions juridiques qui jouent sur la notion de personne, d'autonomie. Le cas classique, c'est la décision du juge dont j'oublie le nom maintenant, qui a décidé que l'esclave n'est plus une propriété, mais une personne autonome, et qui a modifié le statut de l'esclavage dans le monde anglo-saxon et américain, et après qui a... Une histoire évidemment très très importante. On essaie de prendre cette décision de 18e pour l'appliquer aux machines, puis après au monde végétal, et ainsi. Et on voit très bien que ce déplacement est très important, et du coup l'enjeu, c'est Wiener qui l'a dit dans God Goes, c'est comment penser la délégation et l'autonomie avec les formes d'automatisation des machines apprenantes, on va dire, pour aller vite. Pour tout ce qui est question de l'humain, des algorithmes, effectivement, aujourd'hui, je dirais la plus grande majorité du savoir, c'est l'humain joue un rôle très, très important dans l'algorithmique, ça, c'est évident. Mais néanmoins, on commence à avoir des formes qui nous échappent, où on ne maîtrise pas comment l'algorithme a appris. Et c'est là où on a des interrogations. On a eu des cas, effectivement, dans le monde financier. à cause de la complexité des algorithmes qui sont déployés sur le marché, qui échappent à leurs concepteurs à cause de la rapidité et puis les calculs qui sont faits. Mais ici, on est quand même dans des domaines plutôt émergents, je dirais, des algorithmes à très grande échelle. Ça commence à venir, puis après on verra. On le voit par exemple avec l'image, très très bien, hein. C'est moins, mais avec certaines manières de faire les calculs. Pour la dernière question sur la dimension occidentale, moi j'avais dit que l'informatique est occidentale. Non pas parce que c'est mettre en question nécessairement la dimension de l'universalité des lois mathématiques, mais plutôt pour rappeler que l'informatique, ce n'est pas juste des mathématiques. Ce sont des langages de programmation. Il y a eu de très belles études par des collègues des Pays-Bas qui ont étudié à quel moment les langages de programmation ont été modelés sur l'individu humain, qui ont modifié la manière dont on concevait le rapport avec la machine. Ça date des débuts des années 50, hein, mais avant, on avait une autre manière de concevoir. Et avec ça, effectivement, il y a toute une série de bagages historiques, épistémologiques et anthropologiques qui est extrêmement occidental. Et au-delà de là, moi, je dirais même beaucoup plus loin, quand on regarde de près, à quelques exceptions près, il y a Fortran, mais même Fortran, ça reste le cas. La plus grande majorité, parce que tous en tout cas, des langages de programmation sont une variation dans la manière dont elles s'expriment de l'anglais. Et c'est là où c'est la dimension qui est très très importante. Vous allez de HTML ou je vais aller vers d'autres choses, vous êtes en anglais. Et c'est cela où on a une inscription linguistique. Alors effectivement, s'il y a une puce qui va avoir un compilateur qui va comprendre le chinois, ou il va comprendre l'ourdou, ou le hindi, ça va être très très différent. On va avoir beaucoup de difficultés à comprendre et à suivre parce que ça va complètement changer de registre. Et là, on revient sur une dimension extrêmement culturelle, hein, qui nous est connue et que nous, en sciences humaines, je veux dire, et sociales, on a les éléments et les moyens, mais on n'a pas encore. Les Japonais ont essayé dans les années 80 de produire des puces. Ça a été tellement cher, ça n'a pas abouti. Et du coup, on est revenu sur les modèles qui sont toujours ceux des États-Unis, on va dire, pour aller vite, mais c'est aussi ce sont les manières de programmer qui incarnent des valeurs portées par le langage. Pardon. Quand vous regardez, moi j'avais étudié à cette époque, parce que je m'arrêtais, le langage de ligne de commande. C'est-à-dire quand vous êtes sur des terminales, pour arrêter un processus, vous le tuez, par exemple. You kill the process. Et surtout, il y a tout un vocabulaire féministe, anti-féministe, il y a beaucoup de... Il y a le mother process, le child process. Il y a tout un vocabulaire qui date des... Eh bien, on oublie, mais on l'utilise sans cesse. On tape kill, retour, pouf, c'est réglé. Mais c'est quand même violent quand on y pense. Hein. Au lieu de, d'autres mots qu'on peut utiliser, on peut étudier ça. Si ça vous intéresse, il y a un très beau texte, je vais m'arrêter là, par un des grands romanciers de science-fiction, Neal Stephenson, qui est l'auteur de Snow Crash et d'autres choses, mais le texte malheureusement n'a pas été traduit en français à ma connaissance. Il est très très beau, il s'intitule « In the beginning was the command line ». Au commencement était la ligne de commande. Je simplifie beaucoup, je dis juste une observation. Il a observé, puis après il a fait beaucoup d'années, c'est un texte très dense de 80 pages. Et ce qui est curieux avec la ligne de commande et l'arrivée des WYSIWYG, des interfaces graphiques, c'est que quand vous êtes sur la ligne de commande, le rapport cognitif avec la machine est complètement différent ou autre du rapport avec les interfaces. Pourquoi ? Parce que quand vous tapez une commande, sauf pour la compilation, touche retour, ça fait le travail, etc., il revient, il n'y a rien qui est dit, c'est-à-dire tout s'est bien passé. S'il y a un message, il y a une erreur. Alors avec... Et on voit très bien que c'est là où on retrouve la puissance de la raison computationnelle. Il y a beaucoup d'études sur ces aspects.
Est-ce que quelqu'un aurait une question ?
Je vous propose de décaler d'un quart d'heure pour qu'on ait le temps de... La pause, je veux dire, pour qu'on ait le temps de discuter.
Bonjour et d'abord merci beaucoup pour cette présentation claire et pleine d'informations. Alors moi je ne suis pas du tout du domaine mais je me suis très bien retrouvé dans votre discours. Alors moi je voudrais comme mon prédécesseur revenir un peu sur Turing qui dans sa thèse pense que les mathématiciens ne s'intéressent pas autant, si j'ai très bien compris la présentation. Et les informaticiens le prennent en considération.
Non, je crois une différence entre les mathématiques et l'informatique, c'est que l'informatique traite avec le temps. Il faut, ce qui est procédural, ça prend du temps, le temps du calcul, il faut le diminuer autant que possible, l'optimiser, ainsi de suite. Le mathématicien, la question, il ne se la pose pas. Quand ils sont en train de faire ou bien une preuve ou étudier des manières de concevoir des relations complexes entre les objets, le temps ne figure pas. Ça peut être les formes, ça peut être toute une série de variables et de qualités. Sauf qu'en informatique, et c'est ce qui est important quand vous allez voir chaque fois que vous êtes connecté où vous êtes, le temps est partout avec vous. Du moment que vous êtes connecté, du calcul, la demande, ainsi de suite, ce qui explique aussi une certaine obsession avec la temporalité. Si vous vous rappelez, quand Google avait lancé sa dernière version de Google Instant, il dit « on va vous rendre le temps perdu ». Ce n'est pas le hasard qui leur fait dire ça, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui va avec. En France, vous avez le grand spécialiste Gérard Berry, dans les travaux techniques informatiques, sont sur le temps en informatique, c'est extrêmement complexe pour le calcul, la mesure du temps, ainsi de suite. Mais, si ça vous intéresse, il y a un texte classique de Donald Knuth, c'est un Turing Prize, sur la différence entre les mathématiques et l'informatique.
En fait, je voulais un peu faire allusion aussi à une production aussi qui est actuellement en expérimentation en Limousin.
Oui.
C'est de là que je viens d'ailleurs. Et qui concerne les caméras vidéo, les caméras cryptées qui permettent de détecter systématiquement les chutes des personnes âgées et d'avertir rapidement les professionnels paramédicaux qui interviennent. Donc, du coup, ça utilise des algorithmes. Est-ce qu'à ce moment, bon, moi, je pensais que l'algorithme est intimement lié à la production aussi mathématique. Et est-ce qu'à ce moment, ces mathématiques ne font pas appel autant? Parce que c'est permettre aussi d'intervenir rapidement.
Non, ça, il n'y a aucun doute, mais vous êtes en pleine informatique.
D'accord.
Ah, il y a des formules mathématiques, ça va de soi, il y a des théorèmes qui sont utilisés, des méthodes, mais elles sont appliquées dans un déroulement à la fois récursif, de reconnaissance, d'apprentissage, et puis de gestion de temps et de communication qui est informatique.
D'accord. Merci bien.
Merci. C'est juste un tout petit mot. Ça m'avait fait penser à vers la fin de votre intervention, à la génération spontanée de nouvelles données et qui échapperait justement donc aux créateurs des algorithmes. Et donc du coup, c'est une production. On devient des spectateurs de la machine quelque part.
C'est une manière de voir les choses. Alors, il y a une manière pessimiste, on va dire dystopique. Ça, on peut s'inspirer d'un très belle nouvelle de Gibson qui a été faite en film, Johnny Mnemonic, où l'humain est livreur de données. Hein? Pour aller vite, on est là, on livre des données qui sont collectées, exploitées, étudiées. Oui, ça c'est parfois le cas. Alors moi, ce dont je parle, c'est un peu différent, même dans les domaines de recherche scientifique. Il y a des manières de produire des formes de connaissances et de savoir qui étaient impossibles avant. Je vous donne un exemple. Moi, je ne suis pas expert, mais j'avais écouté un monsieur qui, évidemment, était expert parce qu'il était responsable de ça. C'était le monsieur à Los Alamos qui était responsable de produire les simulations d'explosions nucléaires pour les nouveaux designs des armes nucléaires. Il nous a raconté qu'ils avaient les plus grands calculateurs, machines à calculer au monde à l'époque, et ça tournait pendant 120 jours ou 130 jours pour faire des calculs. Mais le problème qui se posait, c'est que le résultat, quand il sortait, était illisible pour l'humain. C'était extrêmement complexe. Du coup, à la fois, il concevait l'expérimentation, mais il concevait aussi des manières d'interpréter les données pour pouvoir vérifier. Et là, on voit ce que l'informatique a fait, mais ça, l'INRIA le connaît depuis longtemps comme d'autres, c'est la preuve automatique dans des domaines techniques dont on n'a pas besoin d'intervention humaine.
dans ce sens-là, parce qu'il y a des modèles qui peuvent être formalisés, qui peuvent donner des lieux. Et on voit très bien qu'évidemment, ils n'ont pas intérêt à fabriquer une arme avec une erreur, parce que c'est gravissime. Et du coup, voilà. Alors, c'est un domaine très particulier, mais on peut voir dans d'autres aspects, dans d'autres domaines, effectivement, comment on peut arriver avec les données, avec l'évolution de la pensée algorithmique à... Il y a une théorie qui s'appelle écorythme, qui est très intéressante. C'est des algorithmes à l'échelle de du globe, pour étudier non pas seulement la météo et le climat, mais d'autres aspects. Et on voit très bien, ça commence à donner... Là, ce sont les gens qui sont dans l'équipe de Lasley Valion qui travaillent là-dessus, et on voit qu'ils sont eux-mêmes surpris. Et curieusement, Valion, qui est un Turing Prize et tout ça, ça l'inquiète énormément. Le fait que quelque chose émerge où le scientifique, ou le groupe, je veux dire, pas l'individu seul, hein, n'a pas seulement pas maîtrise, ils ont du mal à interpréter dans la manière classique, conventionnelle qu'on a, les résultats. On a d'autres exemples. Astrophysique, aujourd'hui, on ne fait plus ce qu'on faisait il y a 30 ans, pour ne pas dire complètement un autre univers, si je veux dire, point de vue scientifique. Alors, et il y a des scientifiques qui se sont intéressés à ces questions de manière à la fois peut-être théorique, ça peut vous intéresser. Il y a le très beau discours de Prigogine quand il a reçu le prix Norbert Wiener autour de comment interpréter ces formes de complexité avec l'émergence de ça. À lui, il a pris un point de vue qui n'est pas celui de l'informaticien, et c'est intéressant de le contraster, parce qu'il parlait de complexité, c'était Monsieur Complexité quand même. Et là, on voit aussi des débats au sein de la communauté scientifique autour de ces questions-là. Dans nos domaines classiques, en littérature par exemple, on a vu avec certains des travaux de Moretti qu'on peut imaginer la littérature anglaise à Londres avec des critères qui n'étaient pas possibles avant. Vous pouvez savoir penser la ville autrement en lisant 3000 romans. Évidemment, il est très difficile de lire 3000 romans et se rappeler tous les éléments qui parlaient de telle ou telle chose. L'algorithme peut le faire, mais ça, on n'est pas sur le même registre à mon avis. C'est quelque chose qui est émergent, qui n'est pas encore aujourd'hui, mais à mon avis, ça arrive.
Ce que je voulais savoir, s'il vous plaît, c'est à la fin de votre intervention ou de votre discours, vous avez signifié que le matérialisme numérique peut être considéré aujourd'hui comme, si vous voulez, une forme de dépassement du matérialisme historique. Et donc, ce que je voulais savoir, quel lien vous faites entre les deux, parce que pour moi, le matérialisme historique, quand même, est de l'ordre quand même de la production matérielle, alors que, bon, à moins que je vais quand même me tromper, mais le matérialisme numérique fait quand même référence à la production immatérielle. Donc, quel lien faites-vous entre production matérielle, production immatérielle, pour expliquer... si vous voulez, l'ordre social ou le lien social que peuvent aujourd'hui avoir les différentes interactions. Voilà, je voulais comprendre
un peu. Oui. Non, merci, mais tout le point, c'est pas immatériel. C'est une matière, mais une matière d'une autre nature qui était là, mais on ne le savait pas, on ne la reconnaissait pas, on ne savait pas la maîtriser, la mesurer, la compresser, la transmettre, l'exploiter. C'est ça ce qui a changé. Évidemment, et avec cette arrivée, effectivement, on a des scientifiques peu remarquables qui nous font l'histoire de l'humanité avec l'histoire de l'information, de sa transmission, son évolution ou d'autres choses. Et tout le point, ce que je voulais dire, c'est que l'information, c'est matériel, c'est pas immatériel. Alors, si vous voulez une preuve, c'est très simple. Si vous essayez d'effacer quelque chose, vous vous rendez compte que c'est matériel. Ça, c'est le point le plus banal, mais on va beaucoup plus loin. Sauf que cette matière a des propriétés et des qualités qui sont différentes. La plus importante, à mon avis, elle peut être compressée. Et c'est ça ce qui est le plus important. C'est-à-dire, vous pouvez envoyer votre mail à n'importe quel destinataire, et je vous assure que votre message ne voyage pas intégralement. Il est comprimé, il y a peut-être 30% de votre message vont voyager, il sera rassemblé juste... chez les destinataires, pour reproduire selon un modèle qui est très très connu, pas très compliqué aujourd'hui, à cause de compresser et décompresser. Et ce n'est pas la même chose qu'on avait dans le passé. Un livre que vous allez envoyer dans la poste, vous n'avez pas intérêt à déchirer 10 pages. et vous allez imaginer que le postier va pouvoir rajouter les 10 pages manquantes, alors que le mail, exactement ce qu'il fait, si j'ose dire. Et on voit que c'est une autre matière qui a d'autres propriétés. Mais aussi, il y a un autre aspect, pour répondre à la dimension économique, c'était Simon qui l'avait dit quand même, aujourd'hui c'est devenu tout un domaine à part, c'est celui de l'économie de l'attention. Et c'était Herbert Simon qui avait théorisé le fait qu'on passe à l'information, on va passer à une ère de la surabondance. Et dans une ère de la surabondance, ce qui va valoriser économiquement, ce n'est pas le contenu, mais l'attention de l'individu. Et voilà le changement de paradigme. Ça, c'est simple, mais il fallait le penser et le dire à l'époque.
Dans sur cette histoire de matérialisme historique, dans la tradition marxiste classique, etc., cette lecture-là a conduit à un déterminisme forcené. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une dynamique un petit peu similaire avec le matérialisme numérique, pas comme vous l'interprétez, mais dans l'ère du temps commun?
Je crois qu'on a une tendance déterministe. Et là, je n'ai pas eu le temps, par exemple, la solution qui est proposée par quelqu'un comme Wolfram, je n'ai pas voulu dire en anglais parce que je n'arrive pas à le traduire, il dit pour essayer d'échapper au déterminisme de la régularité et de la prévisibilité dans la matière informationnelle, il dit en anglais, you have to outcompute the system. C'est ça où la créativité humaine va intervenir. Je ne sais pas comment le dire en français, mais on est dans une dimension extrêmement déterminée, surtout dans des formes de régularité. On le voit avec des modèles de recommandation qui à la fois reconnaissent des formes de réalité et qui les renforcent, parfois même les prescrivent, hein, dans certains cas. Je ne vais pas être toujours dans ce cas-là, mais il n'y a aucun doute qu'il y a une dimension. Et on le voit même dans les domaines des humanités numériques. Une des dimensions qui est extrêmement complexe à rendre un peu plus souple, c'est le formalisme ontologique, sémantique. On va avoir plusieurs ontologies, mais au moins on est dans des formes de formalisme qui peuvent être extrêmement déterminants. Et comment négocier effectivement avec ça, ça reste une question qu'on a connue avec l'héritage formaliste, mais qui revient par le biais de la sémantique et des ontologies aujourd'hui, qui est appliquée au fur et à mesure, et ainsi de suite. Ça, il y a une dimension, absolument, oui, je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas de réponse, mais quelque chose qui se pose, oui. Il y a des gens qui réfléchissent à ça. Hein. Il y a un grand monsieur, Chaitin, informaticien de IBM, qui a beaucoup écrit sur ces questions-là, à la fois point de vue algorithmique, technique, très, très intéressant.
Très bien, merci. Donc, on va faire une pause de 10-15 minutes et après, on reprend. 10 minutes, c'est bien.
Merci.